Joseph montait, la lune folle. Monsieur Gavary, capitaine du port en retraite et conseiller municipal de la Flers-sous-Cloche, la ville natale où il était venu prendre ses invalides après 30 ans de bons et loyaux rhumatismes contractés au service de l'État, se promenait librement, béatement, après son dîner, dans la grande allée de son jardin. Quoique belle, la soirée d'octobre était sombre, et il n'était éclairé que par les feux lointains des étoiles brillant à travers un réseau de nuages dont une brise assez vive déchiquetait par moments la trame inconsistante et fugace. Monsieur Gabary, avivant la chaleur de la digestion par la lueur d'une énorme pipe de laquelle très méthodiquement, à intervalles égaux, il tirait de gros flocons d'épaisse fumée, allait et venait d'un pas lent et sage, la tête haute et le nez en l'air, par une vieille habitude de regarder la couleur du ciel, lorsqu'il aperçut à l'horizon, par-delà les collines lointaines, un globe de lumineux monté dans le ciel noir. Tiens, voilà la lune, murmura-t-il de la calme satisfaction d'un homme qui salue une vieille connaissance. Et comme il était arrivé au bout de son allée, il tourna sur ses talons et reprit sa promenade en sens inverse, avec la même lenteur mesurée, sage, lançant toujours ses flots, gros flocons de l'épaisse fumée, et continuant à regarder le ciel. La lune, trop de bruit, la lune. Quoi de plus naturel que de la voir la lune se lever à l'horizon? Certes, il n'y avait là rien de surprenant. C'était son métier, n'est-ce pas, elle, à cet astre de monter comme ça dans le firmament nocturne où sa pâle clarté épand des nappes transparentes. Bien certainement, c'était son métier. Et M. Gabary avait double raison de le savoir, en qualité d'ancien contrôleur des marées et d'astronome amateur à ses heures perdues. Et c'est justement pour cela que, par un vague instinct, en se répétant ce mot favori, familier, la lune, il l'avait souligné d'un muet accent d'interrogation. Mais oui, au fait, il y avait 3 jours que le dernier quartier de la lune avait disparu. Il était vraiment trop tôt pour qu'elle recommençât à se montrer. Que diable est-ce que cela voulait bien dire? Monsieur Gabarit était parvenu en même temps au bout de sa réflexion et à l'extrémité de son allée. Il se retourna, regardant toujours le ciel, et si sa pipe ne tomba pas par terre, c'est que l'excès même de sa stupeur lui avait convulsivement serré les dents. Il resta immobile, cloué sur place, les yeux écarquillés, et se demandant s'il ne devenait pas fou. La lune, qu'il venait de voir 2 minutes auparavant, émergeant à peine au-dessus de la ligne noire des collines, était maintenant au beau milieu de la voûte céleste. Et quelle lune! Une lune formidable, prodigieuse, grosse comme 3 ou 4 fois les lunes ordinaires, et large non plus comme un fromage de camembert, mais comme ces potirons géants que les paysans des environs apportaient chaque samedi au marché à la Ferté-sous-Cloche. Monsieur Gabarit pensa d'abord qu'il avait la berlue et se frotta vigoureusement les yeux pour comparer et confirmer cette illusion d'optique. Mais à peine les eut-il ouverts que sa stupeur se changea en effarement. Le globe lumineux qu'il venait d'apercevoir semblait maintenant rouler sous le plafond noir du firmament. Et il allait avec une telle vitesse que l'œil pouvait suivre aisément les progrès de sa course. Puis, subitement, il s'arrêta et décrivit un brusque crochet, après quoi, comme pris de vertige, il se laissa tomber vers la terre, la menaçant de l'écrasement soudain. Puis, sans transition, il repartit en l'air d'un élan vigoureux, escaladant les plus sublimes hauteurs de l'Empyrée. Il n'y avait plus à en douter. La lune dansait dans le ciel. L'ex-capitaine du port demeura un instant médusé, comme anéanti par la vision de ce phénomène invraisemblable. Puis, subitement, il prit ses jambes à son cou, traversa la maison comme une bombe, enfila d'un trait la grande et unique rue de la Ferté-sous-Cloche, ouvrit fébrilement une porte à auvent derrière laquelle il filtrait un rayon de lumière et s'arrêta enfin dans l'arrière-boutique du pharmacien Cruchot, le seul homme capable d'avoir encore l'œil ouvert à 9 heures du soir dans l'assoupissement général de la petite ville, somnolente et paisible. Le pharmacien Cruchot veillait en effet, mais pas seul. Il était en tête à tête avec l'honorable Monsieur Melon, le maire de la Ferté-sous-Cloche, contre lequel il défendait avec un acharnement héroïque les restes d'une tour branlante et l'honneur d'une reine infortunée. Seul débris d'une dynastie qui avait dû tomber successivement sur le champ de bataille d'un échiquier crasseux, les phalanges dévouées des pions les plus dévoués et les escadrons des plus intrépides cavaliers. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'écrièrent les deux joueurs d'un seul voix en voyant la mine effarée de leurs camarades gavaris. Ce qu'il y a, mes amis, dit celui-ci, dès qu'il put reprendre haleine, il y a que la lune est devenue folle, venez voir. Folle, la lune? Le maire et le pharmacien se regardèrent avec la même genre de gens qui échangent la même pensée. C'est ce pauvre gabarit qui est devenu fou. L'ex-capitaine du port surprit ce regard. Non, non, mes amis, non, non, je ne suis pas fou. Je vous le répète, c'est la lune qui est folle. Sortez seulement un instant, vous le constaterez. L'accent de conviction, on n'en mettait pas de réplique. Les deux joueurs d'échecs se levèrent, traversèrent la boutique et sortirent dans la rue. Là, ils demeurèrent bouche béante. Gabarit avait dit vrai. La lune zigzaguait dans le ciel. Phénomène inouï, stupéfiant, incroyable, dont les annales de la météorologie n'avaient jamais, de mémoire d'homme, mentionné l'apparition. L'astre des nuits, extraordinairement rapproché de la Terre, à en juger par la largeur de son diamètre, dansait au fond du firmament une gigue fantastique. Il allait, venait, revenait, plongeait, montait et donnait les premiers signes les plus évidents d'un crack d'étraquement vertigineux. Oh, c'est la fin du monde! S'écria Monsieur Melon d'une voix étranglée. Soudain, le globe lumineux fit à l'horizon, derrière les cimes des coteaux, un plongeon suprême et ne reparut plus. Les trois amis restèrent sur place, haletants, les yeux fixés sur la ligne derrière laquelle ils avaient vu la lune s'abîmer. 2, 3, 5 minutes, 10 minutes passèrent. La lune ne se remontera pas. Elle a sombré dans l'infini, fit d'une voix sépulcrale le pharmacien Cruchot, familier de quelques poètes. Il y eut un silence. Rentrons, messieurs, dit au bout d'un instant le maire de La Ferté-sous-Cloche. Vivement impressionnés, les trois amis rentrèrent. Quand ils furent assis dans l'arrière-boutique du pharmacien, ils se regardèrent un long moment sans parler. Messieurs, dit enfin l'ex-capitaine de port, nous venons d'être les témoins d'un fait unique dans l'histoire du monde. Comment expliquer ce bouleversement nouveau des lois de la nature? Si nous vivions dans un temps plus ancien, plus jeune, d'une vingtaine de siècles, l'explication en serait aisée. Nous ne manquerions pas de penser, de dire que Diane, éprise de quelque endymion, était descendue sur la terre et que nous l'avions surprise au moment où, remontant vers l'Olympe, elle avait manqué son élan sur quelque neige ou bien le pied lui avait glissé. Mais nous ne sommes plus autant mythologie. Hélas, non, soupira le pharmacien Cruchot. Et nous ne pouvons nous contenter de cette poétique explication, mais insuffisante. À quelle conjecture en sommes-nous donc réduits? Pour moi, quelque familier que je sois par métier avec les questions astronomiques, je vous fais ici l'humble aveu de mon incompétence. Tout au plus puis-je risquer cette hypothèse que l'astre des nuits, subitement arraché à son orbite pour une cause inconnue, a déserté notre système planétaire et que nous avons assisté aux tragiques péripéties de son départ. Pour le reste, attendons, messieurs, que les journaux nous apportent l'opinion des savants qui ne sauraient manquer de s'émouvoir d'un phénomène aussi extraordinaire. Et en attendant, ajouta le capitaine Gabary dans un ton lugubre, que nous puissions recevoir longuement encore les journaux de notre planète elle-même ne soit pas engloutie dans le tourbillon d'un cataclysme universel. Sur ces paroles pleines de sagesse et de grosses poignantes incertitudes, les trois amis se séparèrent et s'en allèrent coucher chacun chez soi. Le lendemain, ils se réunirent pour lire les journaux. Rien, aucune allusion au prodige dont ils avaient été les témoins stupéfaits. Le surlendemain, rien encore. Un troisième jour se passa sans rien du tout. Rien, toujours rien. Comment fallait-il croire que par une faveur providentielle, ils fussent les seuls hommes à qui ce miracle eût apparu? C'était invraisemblable. Et cependant, cela ne faisait pas de doute. Le soir du 4e et 5e jour, le capitaine Gabary arriva triomphant chez le pharmacien Cruchot, où il trouva le maire de La Ferté-sous-Cloche. Il avait rédigé, le jour même, un mémoire intitulé La mort de la Lune, destiné à la société savante de Rigueville-sur-Orne, et au bas duquel il voulait bien autoriser ses amis à poser leur signature en tant que en tant que témoin. Et le lendemain matin, le mémoire avait été expédié sous plus chargé. Or, le lendemain soir, sur le seuil de sa boutique, le pharmacien Cruchot accueillit le capitaine Gabary à plus, dès qu'il l'aperçut de loin, par une pantomime lamentable. Qu'avait-il, grand Dieu? Ben, il y avait ceci, que l'infortuné Gabary dut lire en toutes lettres dans le journal que le désespéré Cruchot lui mettait sous le nez, Les expériences d'aérostation lumineuse effectuées vendredi dernier a parfaitement réussi. Le ballon gonflé d'hydrogène et éclairé intérieurement par une lampe électrique, après sa descente à quelques lieues de la Ferté-sous Sloche, et les astronautes ayant voulu donner à la presse que des renseignements absolument précis sur leur intéressante initiative, nous avons dû attendre jusqu'à ce jour pour en publier le compte rendu détaillé que voici. Le capitaine Gabary eut une sueur froide. Il devait en avoir une plus froide encore lorsqu'il reçut 15 jours après, par lettre officielle, l'avis que la société savante de Bruegel-Zoorn le remerciait de son curieux mémoire et en ferait l'objet d'une prochaine contribution et communication à l'Institut.